Séoul au jour le jour. Bonjour à tous et merci de nous rejoindre pour cette nouvelle édition de Séoul au jour le jour. Le K-Auction, la société de vente aux enchères sud-coréenne, organisera sa première séance importante de la nouvelle année et il a annoncé que deux trésors nationaux seraient proposés à la vente, ce qui a suscité une vive attention dans tous les médias locaux. Il n'est pas rare de voir des objets de valeur du patrimoine culturel être présentés dans une vente aux enchères. Mais c'est la première fois pour un trésor national reconnu par l'État. On peut se demander, est-il possible de vendre des objets désignés comme patrimoine culturel par l'État? Eh bien en fait, il est interdit de les vendre à l'étranger, mais est autorisé de le faire dans le pays à condition de déclarer une telle cession auprès de l'administration nationale du patrimoine culturel. Pour revenir à la vente annoncée chez le K-Auction, il s'agit de deux trésors nationaux détenus par le musée Gansong. Le premier est baptisé Keumdong Samjeon Bulgam, fabriqué au XIe ou XIIe siècle. Il est composé de deux pièces, une représentation à petite échelle d'un temple bouddhiste et d'une statue de triade, à savoir le Bouddha et deux saints bouddhistes dits Bodhisattva. Le chef-d'œuvre, haut de 18 cm, illustre bien l'art de la sculpture en bois du royaume de Goryeo. Son prix d'estimation est entre 2,8 et 4 milliards de won, soit de 20 à 29 millions d'euros. Le second est appelé Gemi Myeonggeum Dongsam Jeonbul Ipsang. Il est réalisé au VIe siècle au royaume de Baekje. L'œuvre est haute de 17,7 cm. C'est aussi une statuette de triade représentant le Bouddha et deux bodhisattvas au milieu d'un cercle lumineux. Son prix d'estimation va de 3,2 à 4,5 milliards de won, soit de 23 à 33 millions d'euros. En 2020, le musée Gansong a déjà fait sensation en mettant à la vente deux fameuses statues en bronze doré de Bouddha debout, à savoir Keumdong Yole Ipsang et Keumdong Bosal Ipsang. À l'époque, les deux objets ont échoué à trouver preneur et le musée national de Corée les a acquis pour un prix de 3 milliards de won, soit 2,2 millions d'euros. Le musée Gansong a expliqué sa nouvelle démarche. Il a souligné que c'est très douloureux de se séparer de ces deux trésors nationaux, sollicitant la compréhension des Sud-Coréens. Il n'avait pas le choix, car il est confronté à de grandes difficultés financières. Il doit procéder à sa restructuration et son avenir est en jeu. C'est une question de vie ou de mort. Difficile de douter de sa sincérité. Le musée Gansong a ouvert ses portes en 1938 et c'est le premier musée d'art privé du pays. John Yangpil, plus connu sous son nom de plume justement Gansong, a tâché de sauvegarder les héritages du patrimoine culturel de Corée sous le joug colonialiste, donc tout au long de la première moitié du XXe siècle. Ainsi, le musée Gansong conserve Hunmin Jong-eum Hele, une édition commentée de 1446 contenant la promulgation par Sejong le Grand, quatrième roi du royaume de Joseon, de l'alphabet coréen, baptisé à l'origine Hunmin Jong-eum est nommé Hangul de nos jours. L'établissement garde aussi le Mi-Indo, c'est-à-dire le portrait d'une belle femme créé par Shin Yuk-bok, le peintre emblématique du XVIIIe siècle du royaume de Joseon. Pour les deux trésors nationaux mis en vente, le public pourra les découvrir jusqu'au jour des ventes aux enchères, à savoir le 27 janvier prochain, dans la salle d'exposition du K-Auction, à condition d'effectuer une réservation à l'avance. Une bonne nouvelle pour les Canadiens qui aimeraient découvrir le kimchi, la fameuse préparation à base de légumes, notamment du chou, salé, fermenté et épicé. Le Korean Cultural Center, ou le Centre culturel coréen au Canada, organise une exposition en ligne dédiée au kimchi. Il a ainsi ouvert un site internet en anglais dont l'adresse à retenir est kkcart.ca. L'exposition est intitulée « Kimjang, l'esthétique du partage ». Ce site donnera aux Canadiens la possibilité de mieux découvrir la culture coréenne liée au mets indispensable au pays du matin clair. Le nouveau site en question est composé de quatre sections. D'abord, kimchi, l'histoire de ce mets typiquement coréen, la science de cet art culinaire, ainsi que la place occupée par cette préparation dans le monde entier. Ensuite, kimjang. Dans le passé, vers la fin de l'automne, ou au début de l'hiver, les Coréens préparaient et partageaient ensemble le kimchi. Lorsqu'une famille s'y mettait dans un quartier, ses voisins venaient leur donner un coup de main. Cette pratique collective, appelée kimjang, a vu sa valeur être reconnue par l'UNESCO. En effet, le kimjang est inscrit sur la liste représentative du patrimoine culturel immatériel de l'humanité depuis 2013. Troisièmement, le programme d'expérience, un atelier culinaire sera animé par Son Nana, une chef qui tient un restaurant sur place. L'événement sera en présentiel si la situation pandémique du Covid-19 le permet. Et enfin, My Kim Jong est une page participative. Les Canadiens sont invités à partager leur propre expérience du Kim Jong. Et maintenant pour la pause musicale, écoutons un hymne à ce mets coréen, kimchi, interprété par Nola Jo. 너무너무 김치가 좋아 아삭아삭 김치가 좋아 김치 김치 짜짜 많이 많이 짜짜
Vous avez aimé, vous avez détesté, vous avez adoré. Faites-nous part de vos réactions en nous écrivant à french@kbs.co.kr.
Bienvenue si vous venez de nous rejoindre, vous écoutez Séoul au jour le jour en compagnie de Franck Atlani. En Corée du Sud, les foyers sont de plus en plus nombreux à avoir des animaux de compagnie. Certains les chouchoutent comme un membre de la famille à part entière. Quand ils perdent leur chien ou leur chat, ils sont catastrophés comme s'ils avaient perdu leur propre enfant. Dans ce cas, que faire? Faire appel à un détective privé? Pour cela, il faudra prendre quelques précautions. Lorsqu'un propriétaire perd son chien ou son chat, il a tendance à faire un tour dans son quartier. Certains lancent tout de suite un appel à témoins sur les réseaux sociaux. Dans ce cas, gare aux arnaques. En voici un exemple. Récemment, un individu a provoqué la colère. Il s'est fait passer pour un détective spécialisé dans la recherche des chiens ou chats portés disparus. Sa méthode est comme suit. Il repérait d'abord sa cible en lisant des textes publiés en ligne par les propriétaires désespérés qui souhaitaient retrouver leur animal. Ensuite, il prenait contact avec sa proie en donnant de faux espoirs. Il lui proposait son service au prix de 1 million de won, soit 740 euros. Enfin, il lui promettait de retrouver son animal en 2 mois et d'ajouter qu'il rembourserait la somme en cas d'échec. Cet individu n'a jamais tenu sa promesse. Il a réussi à soutirer au total 30 millions de won, soit 22 000 euros, auprès d'une trentaine de personnes. Si ces victimes sont tombées dans le panneau, c'est non seulement parce qu'elles tenaient tellement à leur animal perdu, mais aussi parce qu'elles croyaient à l'existence des détectives spécialisés dans la disparition de chiens et de chats. Si vous le croyez aussi, détrompez-vous. D'abord, une précision. Dans le passé, la Corée du Sud avait interdit le métier de détective privé, contrairement à la plupart des pays avancés tels que les États-Unis ou le Japon. En août 2020, le pays a révisé la loi pour légaliser cette pratique. Cependant, les détectives privés dignes de ce nom sont unanimes pour dire qu'ils ne disposent pas de savoir-faire ni de techniques plus efficaces pour retrouver des animaux de compagnie. Selon eux, l'approche est tout à fait différente de celle de retrouver une personne portée disparue ou de suivre en filature quelqu'un. Par exemple, lorsqu'un détective est invité à mener une enquête sur un mari ou une femme soupçonnée d'avoir une relation extra-conjugale, il n'a qu'à chercher les pistes en analysant les habitudes ou le rayon d'action de la personne en question. Par contre, il est impossible de faire une telle approche pour un chien ou un chat porté disparu. En général, les professionnels préfèrent refuser une demande de ce type car il y a peu de chances de réussir la mission. Donc, ils préfèrent informer les propriétaires malheureux du mode d'emploi habituel. Déclarer la disparition à la police et aux pompiers, distribuer des tracts, appeler les associations animales et mener une enquête de voisinage. Malgré cela, si le propriétaire tient à se faire aider, le service est proposé au tarif de 500 000 won, soit 370 euros. Les frais pour engager 2 personnes qui seront chargées de la mission. Le facteur le plus important est le golden time. Les 2 ou 3 premiers jours sont cruciaux. Plus le temps passe, plus il sera difficile de mettre la main sur l'animal. Si on était à bord d'un petit bateau en pleine mer et qu'on avait envie de faire ses besoins, que faire? Dans la mer du sud de la Corée, on n'a qu'à se rendre aux toilettes publiques. Celles-ci sont installées sur une sorte de radeau. Elles sont identiques à celles qu'on trouve sur la terre ferme. Le premier sanitaire public en pleine mer a fait son apparition en 2012. Son installation a été réalisée suite à la détection du norovirus, connu comme l'une des principales causes d'intoxication alimentaire, qui a provoqué la suspension des exportations d'huîtres vers vers les États-Unis. Afin de lutter contre la pollution maritime et de protéger l'ostréiculture, les collectivités locales concernées ont fait installer des toilettes publiques. Au début, une seule cabine de toilette a vu le jour sur un radeau avec un espace où les pêcheurs pouvaient nettoyer le sanitaire mobile de leur bateau. Entre-temps, il est devenu encore plus crucial de gérer la pollution maritime. Aujourd'hui, on peut utiliser 17 toilettes publiques installées dans la zone maritime qui s'étend depuis le département de Namhae à celui de Goje, dans la province de Gyeongsang du Sud. Et les usagers sont de plus en plus nombreux. Les chiffres sont parlants. La quantité d'excréments et d'urine collectées est passée de 21,5 tonnes à 63,7 tonnes entre 2019 et 2021. Sachez que l'équipement de ce type est très onéreux. Il faut d'abord construire un radeau très solide qui ne sera pas facilement abîmé ni fera naufrage au beau milieu de la mer. Sa fabrication coûte 50 millions de won, soit 36 700 euros. Le prix à l'unité des toilettes publiques est estimé au total à 60 millions de won, soit 44 000 euros. Mais cet équipement a une durée de vie longue de 10 ans et les frais de gestion ne sont pas si élevés. Selon un responsable de la ville de Tongyang, il est important de proposer une alternative raisonnable à ceux qui naviguent en mer sans se contenter de leur interdire tout déversement des excréments et urines. Les toilettes publiques maritimes sont utilisées par une centaine de personnes chaque jour et leur propreté est assurée grâce aux surveillants de la pollution chargés de les nettoyer 3 fois par semaine et aussi de les ramener sur la terre ferme en cas de prévision de mauvais temps tels que les typhons. Et oui, dans la vie, on peut avoir l'impression de se retrouver tout seul en plein océan, au milieu des vagues furieuses. C'est ce que disent les paroles de la chanson suivante. Écoutons pour la pause musicale « Naufrage, Nanpa » interprété par An Yeon. Suivre sa vocation avec passion et entretenir une telle adoration même après sa retraite, ça devrait être un pur bonheur. C'est le cas pour Im Yong-mo, âgé de 67 ans. Il est un ancien soldat du feu. Il a pris sa retraite en 2015 dans la caserne d'Iksan, dans la province de Jeolla du Nord. Récemment, il a fait don de sa collection d'objets liés à la lutte anti-incendie au profit du nouveau musée de sapeurs-pompiers qui sera bientôt construit. Ainsi, il voulait partager l'histoire de la lutte contre les incendies. Mais comment est-il devenu collectionneur? Eh bien, Im a eu un déclic dans les années 90 après avoir visité une exposition organisée en Corée du Sud où on pouvait découvrir des objets détenus par le musée des sapeurs-pompiers de France. Il a alors pensé que la Corée du Sud devrait créer son propre musée un jour. À partir de 1994, Im a commencé à collectionner des objets concernés. Im a collecté divers outils en matière de lutte anti-incendie, non seulement dans le pays, mais aussi à l'étranger. Il se faisait toujours aider de sa fille Im Bo-gyang, aujourd'hui âgée de 39 ans. Tous les deux dénichaient des objets intéressants sur les sites internet de vente aux enchères et auprès des brocantes ou collectionneurs. Im et sa fille ont fait don au total de 191 pièces. Leur collection contient de nombreuses choses qui ont une grande valeur historique et scientifique. Pour ne citer que quelques pièces, l'extincteur avec un cylindre en bois fabriqué dans les années 1900, des grenades anti-feu en verre datant des années 1920, des prospectus de la campagne de sensibilisation pour la prévention des incendies, tels que les règles à respecter pour les ménages, imprimés en 1923, un insigne du chef sur le terrain dans les années 1980, etc. On pourra les découvrir, et encore plus encore, au musée des sapeurs-pompiers, qui ouvrira ses portes en juillet 2024 à Gwangmyeong, dans la province de Gyeonggi. Dans le cinéma, il y a des enfants acteurs ou actrices qui marquent à jamais l'esprit des spectateurs. Au fil des années, certains disparaissent des radars et on peut se demander ce qu'il ou elle est devenu. Voici la nouvelle d'une jeune comédienne qui a joué dans un film de la trilogie de la vengeance de Park Chan-wook, à savoir Lady Vengeance, dont le titre en coréen signifie « Gentille dame Kumja ». Dans ce long métrage, sous la menace mensongère de son bourreau, Kumja s'accuse d'un enlèvement et du meurtre d'un petit garçon. Elle passe passera de longues années en prison, sage comme une image, tout en préparant un grand projet de vengeance. Cela avec l'espoir de retrouver sa fille Jenny, dont elle avait dû se séparer à contre-cœur et qui a été adoptée à l'étranger. C'est Kwon Hye-young qui a joué le rôle de Jenny. Dans le film, elle a maîtrisé parfaitement deux langues, le coréen et l'anglais, et elle a interprété à merveille l'expression délicate d'une fille adoptée à l'étranger et en souffrance. Après le grand succès du film Lady Vengeance, sorti en 2015, la petite Kwon a été sollicitée de partout. Elle passait régulièrement dans plusieurs émissions télévisées et dans des spots publicitaires. En 2021, elle est rentrée aux États-Unis où sa famille avait immigré. Récemment, les médias sud-coréens ont parlé de son retour en Corée du Sud, pas en tant que comédienne, mais en qualité d'officier militaire. Kwon Hye-young, désormais appelée sous son nom américain Kirsten Kwon, a été nommée lieutenante en tant que chef de section dans une troupe d'artillerie aux États-Unis. Aujourd'hui, elle travaille en tant qu'officier d'état-major au sein du commandement des Nations Unies en Corée. Affectée dans la garde d'honneur, elle est chargée de planifier des programmes d'entraînement, des tactiques et de coordonner des événements et grandes cérémonies. Mais pourquoi une carrière militaire? Son père la lui a recommandée et Kwon a suivi son conseil parce qu'elle voulait contribuer à la paix mondiale. Au début, elle rêvait de devenir diplomate, mais elle voyait plus loin. Elle souligne que là où la diplomatie échoue, il y aura la guerre que les soldats devront assurer en première ligne. Elle voulait donc découvrir l'expérience du terrain pour devenir une excellente diplomate. À l'armée, ce n'était pas gagné d'avance. Kwon a dû persévérer parce qu'elle a une carrure relativement frêle par rapport à ses camarades. Mais elle a su positiver en se disant « c'est une belle occasion de me mettre en forme ». Kwon a confessé que le film Lady Vengeance lui a offert une belle expérience et un souvenir précieux, et d'ajouter qu'elle retrouve le même esprit d'équipe à l'armée que celui sur les plateaux de tournage de cinéma. Kwon a déclaré aussi son amour pour deux patries, la Corée du Sud, son pays natal, ses racines, tandis que les États-Unis est la nation à laquelle elle doit beaucoup et qu'elle aime tant. Selon elle, vivre pour les deux pays, ce n'est qu'une bénédiction. Notre jeune comédienne a chanté aussi dans le film en question. Avant de vous laisser entre les mains de Wang Yang pour Saveur du terroir, je vous propose d'écouter ce morceau intitulé « Berceuse de Jenny » de la bande originale de Lady Vengeance.
What do you call mom in Korea?
금자씨.
Why did you dump me?
No friend, no mother, I don't need anybody. No friend, no mother, I don't need anybody. Anyway, just tell me where I am from. Oh, and do you know who I am?
Nous sommes en plein hiver. Quand le vent froid souffle, les produits halieutiques deviennent plus abondants et délicieux dans la péninsule coréenne. Cette semaine et la semaine prochaine, Saveurs du terroir vous invite à découvrir les cadeaux savoureux offerts par la mer de l'Est. Notre première destination cette semaine est l'île Hondo, située à 2 heures en bateau de la ville maritime de Tongyang. Monsieur Min, capitaine, lance la canne à pêche dès qu'il découvre une grande colonie de mouettes. Selon ce quadragénaire, quand les anchois se dirigent vers la surface d'eau, les mouettes se préparent à les attraper en tournant rond dans le ciel. Par ailleurs, les céréoles pingans seront certainement dans les environs pour attraper les anchois. Lorsque les pingans mordent à l'appât artificiel qui ressemble à un sabre, M. Min doit se concentrer davantage pour ne pas laisser s'échapper ces poissons qui sont particulièrement rapides et puissants. Ainsi, le cours d'eau risque de se couper. Les 3 pêcheurs à bord ont fini par attraper chacun un pingan faisant près d'un mètre chacun. Ce n'est pas tout, le samti a pris le relais. Un énorme tasard oriental de 1,2 mètre de long a mordu à l'hameçon. Les 3 pêcheurs disent qu'ils sont particulièrement chanceux aujourd'hui. Après Après une matinée acharnée, M. Min et ses collègues s'apprêtent à se délecter d'un délicieux anka à bord, le pangore. La chair située sous la branchie est une petite partie spéciale, donc bien précieuse. Quant à la chair, la queue, elle se caractérise par un muscle bien ferme. La chair collée sur les arêtes dorsales a une saveur de viande bœuf. Bien qu'elle soit particulièrement ferme sous la dent, elle doit être consommée le plus vite possible parce qu'elle devient rapidement fétide. La chair présente sur le dos de ce poisson forme un mariage gustatif parfait avec le kimchi vieilli, le bulgogi et la pâte de soja fermentée. Une fois arrivés au port, ils sont accueillis par Madame Huang. Cette octogénaire, qui est une voisine de M. Min, prend le pangor pour agrémenter son ragoût. Dans un bouillon infusé de pâte de soja fermentée, elle trempe le poisson coupé en quelques morceaux et cuit jusqu'à ce que le bouillon devienne bien profond. Ensuite, elle l'assaisonne de manière pimentée à base de pâte et de poudre de piment rouge. Ce pangor beuntang est le menu préféré de M. Min qui réchauffe le corps et l'âme. Avec le grand samti, on prépare une grillade. On incise le poisson en entier, puis le sel avec du gros sel, avant de le griller sur la braise. Le poisson, qui a pris de l'embonpoint avant de se diriger vers la pleine mer, est particulièrement tendre et savoureux. À Chunghua Mae, un village de Tongyang, nous sommes accueillis par Madame Park et ses deux filles qui nous présentent les spécialités saisonnières de cette magnifique ville maritime. Tout d'abord, le kaejoge yugwak. On coupe en petits morceaux la chair de grands coquillages appelés kaejoge, les assaisonne et enduit de farine de blé. On les remet dans les coquilles que l'on fait griller sur la braise à feu doux. Il s'agit d'un plat local que tous les habitants locaux apprécie. Le namul est aussi un plat à ne pas manquer dans ce village. On prépare une dizaine d'herbes et d'algues maritimes en les assaisonnant de diverses manières, puis les étale dans un bol les unes à côté des autres. Au centre, on doit mettre le tubu tangkuk, une soupe limpide à base de fruits de mer et de gélatine de soja assaisonnée de sauce de soja à base de poisson appelée organjang. On y met un bol de riz cuit à la vapeur et mélange le tout pour en faire le célèbre bibimbap de Tongyang. Le chotegodeung, une sorte de conque, et le krasungo, poisson de la famille des mulets, servi cru, sont particulièrement délicieux en cette période de l'année. Si vous souhaitez déguster des produits halieutiques bien frais de haute qualité, nous vous souhaitons de vous rendre à Tongyang.
Ainsi s'achève votre magazine quotidien Séoul au jour le jour. C'était Nam Yoon-ji à la rédaction, Franck Atlani au micro et Kim Hong-ju à la réalisation. Je vous souhaite une excellente soirée.